RCF et l'Association des paralysés de France vous présentent... L'APF vous accueille. Une émission présentée par Yvonne Ollier.
Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, nous allons voyager encore une fois, vous le savez, on vous emmène toujours un petit peu de partout, dans toute la France. Là, on va très très loin, très au nord de la France, puisqu'on va dans le Pas-de-Calais. Bonjour Alain Stienne.
Bonjour Yvonne.
Alors Alain, vous habitez dans le Pas-de-Calais, à Calais très précisément, ou un petit village juste à côté?
Oui, à Coulogne exactement.
À Coulogne, d'accord. On entend que vous avez un petit chien à côté de vous.
Un gros chien, oui.
Un gros chien. Bon, bah vous lui ferez la bise de notre part après l'interview. Alors Alain, vous, si aujourd'hui vous témoignez dans cette émission, hein, qui est une émission proposée par l'Association des paralysés de France, c'est tout simplement, alors vous n'êtes pas handicapé tel qu'on peut le supposer. Par contre, vous avez une forme de handicap puisque vous avez quel âge?
J'ai 46 ans.
46 ans, vous êtes encore tout jeune. Et donc, depuis quelques années, eh bien, vous avez eu un très gros souci de santé. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans votre enfance?
Oui, bien disons que j'approchais des 10 ans quand, au lendemain des fêtes de Noël, j'ai commencé à ressentir des céphalées, des vomissements, que sur le coup, on a mis un peu sur le compte des chocolats de Noël.
Oui, ils avaient bon dos, là. Hein.
Oui, disons qu'on a cru, une bonne crise de foie. Et finalement, ben, j'avais une tumeur sur l'hypophyse.
Une tumeur sur l'hypophyse, donc ça veut dire que vous avez été opéré?
Oui, ce qu'on appelle un craniopharyngiome.
Oui. Et ensuite?
Qui est répertorié parmi les maladies rares.
D'accord, une de plus.
Oui.
Et comment ça s'est traduit pour vous? L'opération a été une réussite?
Plus ou moins, parce que bon, ben, à cette époque-là, il n'y avait pas les moyens de prospection qui existent maintenant, les moyens de chirurgicaux qui existent maintenant. Et en plus, d'après ce qu'avait expliqué le chirurgien, la tumeur avait comme une forme de pieuvre.
Donc avec des tentacules?
Oui, et donc il y a eu de gros, gros dégâts. Ça a touché deux parties d'hypophyse, ce qui a amené de graves dérèglements hormonaux, glandulaires.
D'accord. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous vivez avec cette opération malgré tout, qui a laissé des dégâts, comme vous le dites. Alors, est-ce qu'on...
D'autant qu'il y a eu une récidive, on le voit plus tard. Et que ben là, je n'ai plus d'hypophyse du tout.
D'accord. Alors, je voudrais bien prévenir nos auditeurs, puisqu'on va se parler en toute ouverture, parce que je sais que je vous connais bien, et je sais que pour vous, ça ne pose pas de problème. Donc, il n'y aura pas ni de voyeurisme, ni rien du tout. C'est simplement pour bien expliquer tout ce que vous avez et comment vous vivez aujourd'hui. Voilà, parce que je sais que nos auditeurs sont sensibles et ils pourraient penser que j'exagère un petit peu, mais on se connaît bien et je sais que vous en parlez très très facilement, même si c'est pas toujours des moments très faciles. Voilà, donc je voulais quand même bien prévenir. Donc vous n'avez plus du tout d'hypophyse. Quelles en sont les conséquences?
Eh bien, dérèglement thyroïdien.
Oui.
Je suis sous les Votirox. Des problèmes au niveau des surrénales. Je suis sous cortisone à vie. Et moi, la prise de cortisone ne me fait pas grossir, contrairement à la... à ce qui se produit d'habitude chez les gens, puisque même avec un taux de... Avec une prise de 2 grammes d'hydrocortisone par jour, j'ai un taux de cortisol inférieur à la norme.
D'accord. Mais par contre, on va le dire, hein, vous êtes quelqu'un de très fort.
Obèse, oui.
Oui, c'est même plus que ça. Mais on pourrait parler d'obésité morbide, mais encore là, c'est un peu compliqué.
Oui.
On peut dire votre poids?
Oui, je frôle les 200 kilos, là.
Voilà, pour combien
1,65 m.
Combien? 1,65 m. Donc voilà, vous êtes quelqu'un de très très fort, avec donc tous les problèmes que ça peut comporter. Par contre, ce poids est dû exclusivement à des problèmes que vous avez eus avec, à cette hypophyse et autres soucis.
Pratiquement, oui.
D'accord.
Et autre dérèglement que j'ai également, c'est ce qu'on appelle un diabète insipide. insipide, pardon, qui n'a rien à voir avec l'autre, c'est-à-dire que je ne sécrète plus dans mon antidiurétique.
Voilà.
Si je n'avais pas à boire, je pourrais peut-être uriner 10, 15, 20 litres par jour sans...
Sans que ça pose...
Autant, enfin, non, pas si j'avais pas à boire. Excusez-moi. Si je n'avais pas mon médicament, je boirais, j'urinerais peut-être 15 à 20 litres par jour.
Voilà. Et donc, avec tout ce que ça peut comporter, bien sûr, de perte de sel, et, etc., et de soucis autres.
Oui.
Alors là, on va revenir, maintenant qu'on a fait un petit état des lieux, je dirais, on va découvrir tout ça au fur et à mesure. Comment est-ce que ça s'est passé? Donc, vous avez fait une première atteinte, une deuxième derrière. Et ensuite, comment a été votre vie? Comment vous avez, et comment vos parents ont géré cette vie?
Oh ben, à ce niveau-là, j'ai eu la chance d'avoir des parents assez forts. Et en plus, nous habitions une petite ville à cette époque-là, à Bapaume. Et là, c'est l'extrême sud du Pas-de-Calais.
Oui.
Et donc, j'étais très entourée par les gens de la ville.
On vous a pris...
Par mes amis d'école et autres.
Voilà, on a considéré ça comme étant normal, c'était une maladie, bon ben voilà, et on vous soutient, point.
Oui.
C'est un peu comme ça,
hein? Ben oui.
Et comment un enfant de 10 ans réagit à ça? Parce que la famille, bon, je dirais qu'elle est là, et tout ça, les voisins et autres, mais un enfant, vous étiez un enfant à l'époque?
Oui, mais justement, je pense que c'est presque un avantage par rapport à si ça se produit à l'âge adulte ou déjà plus âgé, parce que toute la vie reste à faire.
Vous vous êtes pas posé de questions, vous vous êtes dit, bon, bah, j'ai ça, je fais avec, et puis voilà.
Non, je crois que il fallait suivre le mouvement, puis c'était tout.
Voilà, et tout le monde a suivi, tout le monde vous a suivi.
Oui.
Et Dieu sait s'il faut vous suivre, parce que même aujourd'hui, vous êtes plus un enfant, vous êtes quelqu'un qui a toujours des bonnes idées, qui rigole tout le temps, qui a toujours la vie du bon côté.
J'ai cette chance.
Oui, mais vous le transmettez aussi. C'est pour ça que j'avais envie de vous rencontrer sur les ondes, parce que c'est vrai que nous, on a la chance de se côtoyer très souvent. Mais c'est vrai que vous donnez envie de vivre complètement, malgré vos difficultés. Alors, vous avez été à l'école? Vous avez continué à aller à l'école?
Oui, disons que quand nous sommes... Deux ans après mon intervention, mon père qui était gendarme, a été muté sur Villeneuve d'Ascq, dans le Nord. Et là, j'ai eu la chance de fréquenter un collège adapté aux personnes handicapées.
D'accord. Ça vous a permis de pouvoir travailler? Parce que je présume que le fait d'avoir eu ces deux opérations vous a obligé, en tout cas, à avoir déjà du retard, mais peut-être à avoir des difficultés d'apprentissage.
Non, ça allait. Disons que j'étais très bon élève. J'avais quelques lacunes par rapport à avant, bien sûr. Mais ça allait, disons que j'avais trouvé des petits trucs pour favoriser la retenue.
La mémoire.
Notamment, quand j'avais une leçon à apprendre, je m'enregistrais, je lisais donc une fois le texte en m'enregistrant, et je me réécoutais la cassette 3-4 fois avant de m'endormir.
Voilà. Et pour vous, c'était la meilleure façon d'apprendre?
Oui.
Sinon, c'est trop fatigant de lire plusieurs fois?
Ah non, 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 non. Non, mais le fait de le faire avant de dormir, c'était bien utile.
Voilà, le cerveau enregistrait et ensuite, eh bien voilà, c'était mis dans la boîte, comme on dit. Comment ensuite, donc vous avez suivi des cours, vous avez été jusqu'à quel niveau à peu près scolaire?
Disons que dans ce collège, là j'étais au collège jusqu'à la troisième. Ensuite, je suis parti dans un centre en Bretagne parce que je devais subir une intervention des chevilles. J'ai préparé un CAP d'emploi de bureau que j'ai continué ensuite chez moi par correspondance.
Ce qui n'est pas toujours le plus simple.
Non, j'avais un professeur répétiteur. Et ensuite, j'ai préparé le BEP auquel, malheureusement, là, j'ai échoué.
D'accord, mais vous avez quand même pu faire quelques études et vous vous êtes un petit peu mis dans le monde du travail ou ça n'a pas été possible avec...
Travailler, il y a un petit peu dans des centres d'aide par le travail, mais malheureusement, ce que je qualifierais de problèmes associés étaient assez mal compris.
Oui, parce que c'est vrai que...
Je dois m'absenter souvent pour les toilettes.
Voilà, c'est des choses qui posent des problèmes dans le milieu ordinaire ou semi-ordinaire.
Oui.
Et aujourd'hui...
Même en milieu protégé.
Même en milieu protégé, oui, bien sûr, oui. Mais ça peut se comprendre aussi quand on sait comment les gens travaillent.
Ben, c'est sûr.
Comment, aujourd'hui, ou en tout cas à la suite de tout ça, comment vous avez orienté votre vie ?
Ben, disons que là, pendant quelques années, j'ai été autonome. J'avais des activités bénévoles, j'ai été soutien scolaire pendant 2 ans. J'ai été bénévole à Artisan du Monde, le commerce équitable, pendant 6 années. Et malheureusement, ben, la santé a fait que, allant décrescendo, j'ai dû revenir au domicile des parents.
Oui, parce que vous avez vécu une vie, je dirais, normale, avec un appartement et...
Ah oui, oui.
Et vous avez dû, il y a longtemps, vous êtes retourné chez vos parents ?
Oh, il y a bien 6-7 ans maintenant.
D'accord. Et donc, est-ce que vous avez la possibilité, éventuellement, peut-être en vous faisant aider un peu plus ou autre, de reprendre un appartement ? Vous le ressentez comme ça ou pas ?
C'est difficile parce que j'ai parfois des vertiges, des crises de narcolepsie. Donc, vivre seul pourrait poser quelques dangers.
D'accord.
Représenter quelques dangers.
Vous avez l'impression qu'en vieillissant, puisque bon, bien sûr, comme tout le monde, vous vieillissez, vous avez l'impression que la maladie s'aggrave un petit peu, ou en tout cas que les symptômes s'aggravent ?
Alors, bah, disons qu'il y a d'autres problèmes qui viennent se greffer dessus, liés à l'âge, à l'obésité, notamment l'arthrose.
Oui.
Qui commence à poser problème.
Oui, qui vous empêche de marcher correctement, notamment.
Ah oui, oui.
Et pourtant, vous en avez de la volonté. Vous marchez quand même.
J'essaie de marcher, mais de moins en moins, parce que je peux de moins en moins. Et j'ai un tricycle, mais j'ai peur d'en faire à cause de ces crises d'endormissement. Enfin, il faudrait qu'un jour je prenne le taureau par les cornes, comme l'on dit, puis que je réessaye parce que peut-être qu'en étant justement, en ayant ce dérivatif de pouvoir aller me promener, je ne subirai peut-être pas ces problèmes-là.
Comment les gens réagissent quand ils vous voient ? C'est vrai que quand on vous voit, vous êtes quelqu'un, je suis bien placé pour le dire, parce que moi je suis un peu assez imposante et j'ai pas vos problèmes de santé, mais je suis quelqu'un de très forte. Mais comment on réagit quand on vous voit ? Les gens, est-ce que le regard de l'autre est encore difficile à ce niveau-là ?
Le regard et parfois les paroles.
Les gens vont jusqu'aux paroles ?
Ah oui. Ah oui, oui, une fois il y avait même une dame qui m'a dit que je devrais avoir honte d'être dans cet état.
Oui, ah oui, malheureusement, il y a encore des gens qui pensent que le simple fait d'être gros, c'est parce que on mange trop, on se bourre de bonbons et de gâteaux, et que ça suffit, et qu'on n'a qu'à arrêter tout ça, et on maigrira. Voilà, comme quoi, il faut toujours réfléchir avant de dire quelque chose, parce qu'on peut blesser. Mais vous avez de la répartie, je crois, quand même.
Ah oui, oui, bah c'est justement cette dame. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, j'y mets mon état, madame, c'est comme la connerie, il n'y a pas de remède.
Voilà, bravo, ça je trouve que c'est très bien.
Alors,
je voudrais quand même vous dire, et je vais le dire aux auditeurs, j'ai pas trop l'habitude, mais on a notre technicien Nicolas qui me faisait signe avec le pouce de dire bravo. Voilà, c'est comme ça qu'il faut répondre.
Le pire dans la bêtise, c'est qu'il y a des moments, j'ai été confronté à des personnes. Une fois, j'ai dit à deux dames, elles étaient juste dans le passage, je leur ai dit, excusez-moi mesdames, c'est pas que je sois gros, mais j'ai besoin de beaucoup de place. Elles se sont écartées, je suis passée, et derrière moi, j'ai entendu, il s'est pas vu.
Eh oui, voilà.
Il s'est fait rire.
Voilà, alors que vous étiez le premier à rire de votre état, ce qui est déjà quelque chose d'extraordinaire. Comment vous faites pour avoir...
Bah,
une telle pêche.
Moi, je le conçois comme ça. C'est, avant tout, c'est savoir pratiquer l'autodérision. Parce que regarder quelqu'un dire « Oh, la tronche qu'il a celui-là, t'as vu comment elle est affublée celle-là », si on ne sait pas rire de soi-même, c'est pas de l'humour, c'est de la moquerie.
Oui, tout à fait. Eh ben, dites donc, vous nous donnez une sacrée leçon, là, hein, bravo. On va rester là, on va faire réfléchir un petit peu tout le monde, on va réfléchir nous aussi, parce que je crois qu'on en a besoin. Vous nous avez choisi une chanson ?
Oui. Une chanson que je trouve formidable.
Oui, et c'est ?
C'est « Savoir donner » de Florent Pagny.
Alors, « Savoir donner » de Florent...
Moi, c'est le titre, je ne peux pas me tromper.
Voilà, eh bien, on va écouter, on vous retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Et savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Apprendre à rêver. Rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner. Donner sans rature, ni demi-mesure, apprendre à rester. Vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer. S'en aller. S'en aller.
bien, nous retrouvons après cette magnifique chanson « Savoir donner, savoir aimer » de Florent Pagny. Merci en tout cas Alain de nous avoir donné cette belle chanson. Elle est vraiment, elle vous représente complètement.
Oui.
C'est une chanson qui, quand on l'écoute, j'avais l'impression de vous voir à chaque instant. Vous êtes vraiment, vraiment la chanson par elle-même. On va finir par croire que Florent Pagny l'a écrit pour vous. Alors Alain, on continue un petit peu ce voyage dans le temps avec vous, sur votre vie, sur ce que vous faites aujourd'hui. Comment aujourd'hui, puisque vous avez du mal à vous déplacer autre, comment vous occupez vos journées?
Bien, disons, il y a l'ordinateur, un peu d'activité artistique. Je peins sur acrylique, à l'acrylique.
Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Vous peignez à l'acrylique, vous faites plein de choses, vous avez plein d'idées tout le temps.
Oui, et j'ai les cordées.
Et voilà, et vous avez les cordées. Et ça, nos auditeurs en ont déjà entendu parler. Et là, je peux vous dire à vous tous qui nous écoutez, vous avez un pur cordiste, quelqu'un qui est passionné. Alors racontez-nous un petit peu comment vous viviez vos cordées.
Ben, les cordées, comme je dis toujours, c'est une famille de cœur.
Comment vous les avez rencontrées?
Alors là, je ne sais plus, parce qu'il y a déjà bien 25 ans que je suis.
Ah oui, quand même.
Ah oui, oui. Et je ne sais plus comment, j'ai souhaité entrer dans la première cordée, mais toujours est-il que ça a été toujours un grand bonheur pour moi. Parfois quelques petits heures, quelques petits différents, mais...
Ah ben c'est toujours ce qui se passe quand on vit avec l'être humain.
Ben exactement.
Il peut y avoir des sensibilités différentes qui s'entendent un petit peu moins bien.
C'est sûr.
Aujourd'hui, vous êtes responsable de plusieurs cordées.
Justement, savoir aimer, c'est le cas de le dire. Accepter parfois la différence, les problèmes des autres.
Oui. Vous êtes aujourd'hui responsable de...
À tout niveau.
Oui. Vous êtes responsable de plusieurs cordées aujourd'hui.
Ah oui, oui. À part une peut-être, sinon je crois que je suis PC, premier de cordée ou compagnon de route, dans toutes les cordées où je suis.
Voilà, d'accord. Donc vous avez toujours un rôle de responsable.
Oui.
Qui vous permet, eh bien, de... Bah de gérer un petit peu tout le monde. Alors quand on dit responsable dans les cordées, c'est pas tout à fait ça, c'est plus le rôle du premier de cordée, c'est-à-dire qu'il hisse tout le monde vers le haut et en espérant que tout le monde va suivre, et s'il y a quelqu'un qui est un peu à la traîne pour X raisons, eh bien c'est la cordée dans son entier, parce que c'est le rôle de la cordée, eh bien qui va l'aider à gravir les marches et la montagne. Et vous êtes toujours le premier de cordée, c'est-à-dire celui qui aide, celui qui soutient. Et quand vous avez une personne qui ne donne pas signe de vie ou autre, je présume que vous prenez soin d'elle.
Oui, ça m'est arrivé déjà à plusieurs reprises. Il y a déjà... Oui, il y a bien 15-20 ans, j'ai une cordiste dont je n'avais plus de nouvelles. Et finalement, j'ai appris plus tard qu'elle avait déménagé.
Voilà. Et c'est comme ça très souvent, on le sait, hein, il y a beaucoup de... Alors, vous disiez tout à l'heure que suite à votre maladie, vous étiez très très émotif. C'est quelque chose que l'on ne peut pas trop imaginer quand on ne le sait pas. Alors, le manque d'hypophyse fait que vous avez des émotions exacerbées, c'est ça?
Oui, oui, oui.
Et donc, chaque...
Je ne sécrète pas d'adrénaline.
Oui.
Donc, je vais accumuler les tensions... Et des fois, je me comparais à un baril de poudre ou un bâton de dynamite, la moindre étincelle, et puis ça éclate.
Et puis ça explose. Et comment vous le gérez, ça? Vous arrivez petit à petit à gérer de façon à ce que ça n'explose jamais?
Disons que j'ai la chance d'être intabilaire, c'est-à-dire que si, mettons, je me réveille ce matin dépressif, le fait de recevoir un coup de fil sympa, le fait de recevoir du courrier sympa, les cordées entre autres, de voir un programme divertissant à la télé, ça suffit à me remonter. Et je suis reparti pour la journée.
Voilà, parce que, alors, vous êtes tout simplement, c'est vrai que vous, des jours où vous pouvez être au fond du trou, comme on dit,
ah oui.
Et puis très vite, parce que vous savez toujours voir le beau de ce que donne la vie, et bien vous remontez très très vite.
Oui, j'ai cette grande chance.
C'est une sacrée chance. Est-ce que vous arrivez à sortir un petit peu, à pouvoir voyager un petit peu ou...
Très très peu. Bon, bah, ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, je vais faire un petit tour dans un centre commercial. Je l'avoue, je me paye un petit restaurant.
Mais vous avez bien raison, faut en profiter.
Bon, bah, je passe quelques heures comme ça, puis ça me permet de sortir un petit peu, quoi.
Oui, sinon c'est très compliqué pour vous.
Ah oui. Oui, parce qu'il faut que je... C'est un service de transport pour handicapés.
Oui.
Et il faut que je réserve assez longtemps à l'avance.
Et c'est pas le plus simple.
Non.
D'accord. Et quand vous prenez le train ou autre, comment est-ce que ça se passe? Vous arrivez à obtenir de la SNCF, par exemple, leur service Access Plus pour Access Plus.
Pour l'instant, j'en ai pas encore besoin. Je vais vraisemblablement l'utiliser pour le mois de mai prochain, comme je dois me rendre en Alsace.
Oui, et dites-nous pourquoi.
Ah, vous savez pas.
Non, je ne sais pas.
Il y a les journées nationales des corvées.
Voilà, et ça, je sais que pour vous, c'est quelque chose. C'est un grand rassemblement de tous les responsables de corvées.
Oui.
Et pour vous, c'est votre sortie annuelle?
Oui, pratiquement, oui. Oui, puisque malheureusement, bon ben, mes parents ne pouvant plus, par leur âge, partir en vacances, ça m'est devenu impossible.
Voilà, et donc vous, ça vous permet de pouvoir, eh bien, tout simplement sortir.
Ben oui.
D'où l'importance des cordées qui est de rompre la solitude.
C'est sûr.
On est en plein dedans, là?
C'est sûr.
Voilà.
J'ai noué des liens d'affection, voire même d'amour, avec un grand A, avec certains ou certaines de mes cordistes.
Oui, je sais que vous êtes un passionné des cordées, hein. Je sais que... pour vous, c'est quelque chose, et on le ressent un petit peu dans votre voix, parce que vous avez beaucoup d'émotions en parlant. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Si je devais vous poser une question que j'aime bien de temps en temps, comme ça, en fin d'émission, qu'est-ce qui est pour vous le plus important dans la vie?
Ben, moi, je dis toujours, quand j'envoie mes voeux, je souhaite toujours la santé, si possible, mais surtout le bonheur. Et les bonheurs. Les petits et le grand.
Les petits bonheurs de tous les jours, de la vie.
Qui permettent de contribuer à faire le grand.
Eh bien, on va rester sur cette belle sagesse. Merci Alain.
Je vous en prie.
Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur les pas avec Alain Stienne. Merci à vous tous et qu'ensemble avec l'Association des Paralysés de France, nous fassions face à la vie. Merci, au revoir.